les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission en extérieur. Aujourd'hui, jeudi 8 juin, nous avons à nouveau délocalisé notre studio pour nous poser, pour le poser à l'Abordage Club. Ah, l'Abordage Club, ça me fait toujours plaisir de dire ça. C'est à l'occasion d'un temps d'échange organisé avec la MJC Le Bel et Bas et plus précisément avec le bar associatif Le Rive que nous avons organisé ce temps. Ce temps d'échange aura comme thème aujourd'hui « Quelle place donnons-nous au handicap ?» Et j'ai bien dit « échange hein, », car c'est bien les prises de parole du public qui alimenteront le contenu de cette émission. Dans la salle, justement, sont présents un bon nombre de structures et de professionnels œuvrant dans ce secteur, mais aussi des personnes en situation de handicap. Vous êtes bien entendu tous vivement invités à vous emparer de la parole. Vous avez vu, je suis en train de me débarrasser finalement de toute responsabilité quant au déroulement de cette émission et c'est plutôt pas mal. Pour radio-propulser cette émission jusqu'à vos oreilles, nous avons les meilleurs de nos hommes et de nos femmes au contrôle, à savoir Monsieur Pignon qui aura un micro à chef. Il suffira de faire un léger signe et il se ruera sur vous afin de vous donner la parole. Nous avons eu également à la préparation et au bouclage de cette émission et la constitution des invités Max qui officie sur le RIF de manière régulière. Et puis, à la réalisation, eh bien, nous avons l'inimitable Aurélie. Voilà, les bases sont posées pour démarrer. C'est une heure et demie d'échange. J'ai lourdement insisté sur cette introduction. Le but du jeu, c'est réellement d'échanger. Nous aborderons tout un tas de thèmes autour du handicap et puis la place que nous laissons, que nous prenons, que nous partageons, en tout cas dans le monde qui nous entoure. Et l'objectif, c'est étant d'avancer sur cette thématique. Alors, on abordera tout un tas de thèmes. Certains, je souhaiterais les aborder, mais comme je l'ai dit, c'est la salle qui décidera des thèmes que nous abordons. Et je vous propose que nous commencions peut-être avec un premier thème pour nous chauffer, avec notamment Handiciel, qui est une des sections de la MJC, si j'ai bien tout suivi. Hein, on va détailler dans quelques secondes de quoi il en est. Et puis Arnaud Leblanc, président de Kawan Handi Plongée, d'ailleurs qui est le président de Kawan Handi Plongée. Je peux peut-être vous inviter à me rejoindre. Ce sera peut-être plus simple pour échanger. Les micros sont autour de la table et dans la salle, surtout alimentez les échanges de vos interventions. Faites un petit signe à Monsieur Pignon et il se fera un plaisir de vous tendre le micro. Puis si jamais vous n'osez pas prendre la parole, parce que ce n'est pas forcément évident de prendre la parole en direct, glissez-lui dans l'oreille votre réflexion, votre question, votre propos et il se fera votre voix avec grand plaisir. N'est-ce pas, Monsieur Pignon ? Le temps de dégainer le micro, c'est voilà. Bon, c'est pas forcément rapide, mais c'est pas grave.
Oui, oui.
Très bien. Eh bien, nous pouvons attaquer. Alors, je propose que déjà quand on parle de loisirs adaptés, là pour le coup, alors vous allez vous présenter tous autant que vous êtes chacun au micro afin qu'on ait les prénoms de chacun. Et pareil dans vos prises de parole dans la salle, n'hésitez pas à donner votre prénom, la structure éventuellement de laquelle vous dépendez si vous le souhaitez d'ailleurs, histoire que ce soit un peu plus personnalisé. J'aurais souhaité moi aborder peut-être d'abord avec Handiciel, Arnaud Leblanc, on viendra à vous dans un petit instant. Ce qu'était Handiciel, qu'était donc Handiciel et comment se déroulait l'action de Handiciel.
Bonsoir, moi je suis Fatia et j'ai connu Handiciel, je ne me rappelle pas comment, mais je sais que c'est Handiciel qu'il m'a fait revivre parce que je voulais toujours me suicider parce que tout le monde disait que j'étais un légume. mais je n'étais pas un légume. Mais Roland, eh ben, il m'a fait voler. Et moi, maintenant, je rêve que de ça parce que bah, c'est... il n'y a pas deux mots pour dire qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans le ciel. On est comme un oiseau, on est tout léger. Au départ, on crie toute notre colère, tout ce qu'on a dans le cœur, dans la tête. Et après, et bien, on profite, on a le vent qui nous caresse. On est tout léger, on est vraiment des oiseaux. Il faut connaître, il faut y aller, surtout n'hésitez pas.
Fatia, je me permets pour les auditeurs qui ne voient pas autour de la table comment nous sommes organisés. Vous êtes en fauteuil roulant et du coup, j'imagine que quand on vole, quand on fait du parapente, c'est comme ça qu'on dit, hein, Roland, du parapente, voilà. Quand on fait du parapente, j'imagine que là, pour le coup, bah, y a plus cette question de marcher ou pas marcher, on vole.
Mais non, oui, on est Roland et l'équipe nous mettent dans un fauteuil adapté pour voler, ils sont derrière nous et en fait on se sent tellement léger, on n'a plus de problème, on est libre, on est serein,
tout à fait, oui, allez-y Fatia, et puis même si ça se disait pas, vous pouvez le dire, hein, c'est
on est, le ciel il est tellement calme, il est tellement beau. Il n'y a personne qui peut vous faire du mal là-haut. C'est un plaisir que je ne peux pas décrire. Il faut essayer et puis vous verrez, vous serez comme moi, bah vous arrêterez plus.
C'est cette section Andy Ciel donc il y a une section de la MJC, voilà. Il y a une section valide, je dirais une section ordinaire aussi sur la MJC. C'est quoi la différence et qu'est-ce qu'on vient toucher à travers le Andy Ciel ?
Alors Andy Ciel, c'est juste un nom, c'est juste un projet, c'est pas une structure à part. Le club, c'est un morceau de la MJC, on est une section à part entière de la MJC d'Evreux. On s'appelle Euranciel parce que c'est le joli nom qu'on a trouvé plutôt que dire section vol libre. Hein. Le vol libre, c'est la Fédération française de vol libre d'appartenance, notre fédération d'activité. Et puis Andiciel, c'est juste le nom qu'on a trouvé pour dire on va se lancer dans un projet et on va l'appeler comment ? Et on a voulu appeler ça, ça rime avec le nom du club en plus, Andiciel. Donc ce n'est pas une structure à part, ça on y tient beaucoup. On n'a pas voulu faire une association à part où on dirait bah, tiens, quand on fait les vols avec les Andis, c'est des vols. Non, c'est une activité à part entière du club. À tel point que on a des activités, des sorties où nos fauteuils sont là. On va treuiller ce week-end ou on treuille le dimanche pour voler.
Alors on treuille, c'est une façon de voler, c'est ça.
C'est une technique de vol. Voilà. Oui, on vole soit sur une colline. Merci de préciser, JC. Soit d'une colline, soit avec un treuil. C'est un outil magique, le treuil. Ça nous permet de décoller sur le plat. On est en région où il n'y a pas trop de collines, et il y en a. Et on arrive à se hisser jusqu'à 300, 400, 500 mètres au-dessus du sol grâce à la technique d'équipe. Que sont les treuilleurs, le chauffeur, enfin, c'est toute une technique. Et ça permet, nos journées andicielles, nos belles journées festives qu'on fait plusieurs fois par an, sont des journées où on mise beaucoup sur le treuil. Et voilà. Donc ce que je tenais à dire, c'est ça. C'est, nos fauteuils, ils sont toujours là. On treuille, c'est une journée classique, standard. Notre treuil, il est là, sous la main. Si des personnes viennent ou nous rejoignent, on peut les faire voler, qu'ils soient valides ou andis. Voilà. Nos sorties sont mixtes. On accueille toute personne qui veut venir. Voilà, on vérifie l'accessibilité de nos équipements d'hébergement quand on va à la montagne ou ailleurs.
Mais nos biplaceurs, parce que ça s'appelle des biplaceurs qui nous font voler, et bien, ils nous font voler sur la mer, hein. Ils nous font voler en montagne. On a le camion Andiciel maintenant qui permet d'emmener les fauteuils. Faut pas l'oublier, ça, Roland.
Ça nous permet de bien nous adapter à la météo. Voilà.
Et il nous fait voler partout. Et c'est trop cool parce qu'ils nous font, grâce à eux, on vit leur passion et ils nous montrent et nous donnent encore plus envie de se battre et de vivre et d'avoir la joie de vivre.
Avant de passer la parole à Sylvain, juste un mot sur Olivia. Qui est cette année, en mars, a volé pour la première fois sans pilote, je veux dire, elle est pilote.
Solo.
Elle a décollé avec un fauteuil qu'on lui a prêté, avec une aile qu'on lui a prêtée. Elle a appris ailleurs, hein. Elle n'a pas pu progresser avec nous le début. Mais Olivia est notre est membre du club et elle est venue voler. Et on a eu cette émotion très, très puissante de voir enfin quelqu'un qui, en solo, prend son élan, son envol et sous sa voile. Et toi, Sylvain, ça ne fait pas très longtemps que tu voles.
Non,
vas-y, dis-nous.
Ça fait 4 vols, ouais, c'est ça. Et du coup.
Sinon, il y a un micro qui est un peu plus long.
Ouais,
hein.
D'accord. Donc, je suis adhérent de la PF, je suis Sylvain. Et du coup, avec la PF et grâce à Andiciel, bah voilà, j'ai fait 4 vols. Quoi. C'était un vrai bonheur. Roland et tous les bénévoles de cette association, parce qu'il y a tous les bénévoles, hein, ils sont vraiment formidables avec les personnes à mobilité réduite. Quoi.
Alors oui, ouais. On a d'autres micros, hein, on va pouvoir les partager. Arnaud, on vous en donnera un après, hein, je suis désolé, mais on va se partager les micros.
Et du coup, c'est un vrai bonheur de voler. Hein. On peut voler comme tout le monde, hein, on est comme tout le monde là. Qu'on soit sur un fauteuil ou sur deux pieds, bah, on peut voler. Hein.
Et même sur une jambe, hein, Gilou, il vole avec une jambe, ouais, et il court tout seul. Hein.
Bah, oui. Là, dernièrement, on a été à Villers, un vrai bonheur sur la mer. Hein,
tu as piloté,
En plus, ouais, piloté. On a fait des vraies photos, Roland nous les a envoyées, et puis c'était un vrai bonheur, quoi, des très bons souvenirs. Quoi.
Moi, je me demandais si, au bout d'un moment, être en situation de handicap et amène à des difficultés dans la vie courante, j'imagine, est-ce que finalement, face à un défi comme voler, qui est clairement un défi pour nous tous, hein, valides ou personnes en situation de handicap, est-ce que finalement, dépasser cette difficulté, finalement, ça fait partie aussi du plaisir ? Est-ce que finalement, on ne vient pas se prouver quelque chose ou on ne vient pas se dépasser aussi ?
Si, on se prouve justement. Et eh bien là, c'est la preuve qu'on est comme tout le monde. C'est pas parce qu'on est cloué dans notre fauteuil ou qu'on est tétraplégique ou paraplégique qu'on peut pas profiter. Au contraire, et c'est grâce aux biplaceurs bénévoles. Et quand Roland il fait les journaux du ciel, faut savoir qu'ils viennent de Cherbourg, et ils viennent de partout, de la Normandie, pour nous faire voler. Quand Roland il organise les journées en handiciel.
Quand le club organise, oui.
Quand le club organise, et ben les biplaceurs en dit, et ben il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas évident d'être biplaceur en dit. Et ben ils viennent de toute la Normandie pour nous faire voler. Et nous, et ben ça nous donne encore plus l'envie, ouais, et l'envie de se battre et de.
Vous disiez tout à l'heure, Fatia, et vous le soulignez, que avant de voler, avant d'avoir ces accès à des activités, à un dépassement, le moral, c'était pas top. Hein, c'était de vos propres mots. Et finalement, voilà, d'accéder à ce type d'action, ça redonne le moral. Et puis finalement, ce n'est pas juste un vol. J'ai la sensation, moi, que le vol est l'outil, mais finalement, on ne parle pas juste d'un vol ou juste d'une expérience. On parle bel et bien d'un truc beaucoup plus global qui tourne autour de l'estime, qui tourne autour de sa place et un tas de choses.
Mais j'en suis à 33 vols, moi, attention. Hein.
Ah ouais.
Et Fred, qui est non-voyant total, en est à 43 vols. Alors, on n'est pas à la comptabilité, hein, c'est pas l'essentiel. Luc, le mari de Fatia.
Oui, bonjour.
Bonjour, Luc, installez-vous avec nous, hein, je vous en prie.
Je suis le mari de Fatia, mais moi, je voulais dire quelque chose de sensationnel. Mon épouse...
Bien dans le micro, du coup, quand même.
Désolé. Mon épouse a eu un AVC ou un coup du lapin suite à un accident de voiture par une personne en état d'ébriété. Ce cher monsieur nous est rentré dedans et le lendemain, il nous a dit que, grâce à nous, c'est notre faute bien entendu, alors qu'il nous est rentré dedans, il avait passé la nuit au violon et il n'avait plus de permis. Bon, c'est pas grave. Mon épouse est en fauteuil de temps en temps, c'est suivant les grosses crises. L'APF nous a proposé un baptême de parapente. On ne connaissait pas ce que c'était. Pour moi, c'était un machin dangereux, risqué. C'est pas pour moi. Je le laisse aux autres. S'ils veulent se tuer, qu'ils le fassent seuls. Voilà, j'étais très pessimiste. Et mon épouse est allée. On y est allé. Et là-haut, alors c'est Roland qui l'a mis en confiance. Et elle a décollé. Et Roland doit regretter de lui avoir prêté un talkie-walkie parce qu'elle s'est mise à hurler. En disant, ouais, c'est super, ça vaut le coup de se battre.
C'est la fréquence sécurité, mais ça marche bien.
Il a eu de la chance, les batteries sont tombées en panne, il n'a plus entendu la fin de l'histoire. Mais disons que si ça peut donner envie à des personnes handicapées à faire une activité insensés, qui paraît insensé, mais qui en fin de compte leur permet de rêver. Quand ils sont cloués dans leur lit, là, ils y pensent, on le revole, on revoit même des choses qu'on n'avait pas perçues. C'est sensationnel. Alors, faites.
Un dépassement de plus qu'on pratique à cette Coupe Icare où on va tous les ans depuis 2009. Et ça, c'est... Alors, à la radio, on n'a pas les images, mais imaginez ces équipages de folie qui décollent à ce carnaval volant qui a lieu tous les ans, le troisième week-end de septembre, à côté de Grenoble, à Saint-Hilaire-du-Touvet. Depuis 2009, on a eu l'idée de s'inviter à ce festival et de concourir, de participer en déguisé. Alors, on a fait des traînes, des oiseaux de feu, des anges aux cheveux d'argent. Et avec Fatia, ça, je voudrais quand même que ce soit dit, on a décollé dans cet équipage de folie sur une idée qu'on a eue de voler en baleine. La baleine avait avalé Fatia, qui était dans le fauteuil roulant, qui servait de structure porteuse à tous ces tubes, ces bambous, ces cuivres et ce tissu de parapente qui emballait cette baleine dans laquelle nous étions. Et on a eu cette folie de déguiser avec cet équipage de 8 mètres de long, mais qu'on avait vérifié.
Oui, j'imagine.
La confiance,
oui.
Bien sûr, était entière de Luc et de Fatia. Moi, j'étais en train de me dire, est-ce bien
moins
raisonnable
confiant, moins confiant.
Mais nous avions tout testé. Ceci étant, on a fait ce dépassement de décoller en baleine à la Coupe Icare.
Et on a gagné le premier prix, tu le dis pas.
Oui, premier prix, biplace, comme le soulignait Roland en dehors du micro. Je vais du coup me tourner vers vous, Arnaud Leblanc, président de l'association Kawan Handi Plongée. Et ça va faire un lien assez clair. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu déjà en un premier temps de ce qu'est Kawan Handi Plongée. Et puis derrière, j'ai une question qui concernera, je pense, à peu près tout le monde, sauf si, bien entendu, dans le public, vous souhaitez réagir. Et là, c'est avec grand plaisir. Arnaud Leblanc, qu'est-ce que Kawan Handi Plongée ?
Alors, Kawan Handi Plongeur, déjà.
C'est pardon.
Kawan Handi Plongeur. C'est une association sportive qui a pour but de faire plonger des personnes à mobilité réduite. La première, c'est ça. Et ça a été mis en route en 1996. C'est une des premières du département. C'est encore la seule association à faire plonger des personnes handicapées. On commence à avoir la mixité dans les clubs, on commence à avoir valides et ceux qui sont en dit d'être ensemble. On commence à, mais ça commence un tout petit peu. Donc on n'est plus les seuls, mais on était les premiers. Et c'est vraiment que depuis 2000 que les Kawan Handi Plongeurs ont leur nom.
C'est encore une activité où finalement, quand on est en situation d'immersion en plongée, il n'y a plus de handicap, ou en tout cas ça s'amenuise ce système de handicap, en tout cas sur la partie mobilité. Je vois entre voler dans les airs, où finalement on est tous un peu égaux, enfin, je ne suis pas sûr que si on me mette avec une voile au-dessus de la tête, je m'en sorte beaucoup mieux ou pire peut-être même. Pareil, la situation de plongée, finalement j'ai la sensation qu'à travers ces activités qu'on pourrait considérer comme du loisir pur et dur, mais finalement, derrière, j'ai la sensation qu'on touche autre chose aussi, notamment à travers la plongée aussi. Cette apesanteur, j'imagine, favorise voilà. le mouvement, j'imagine.
Il y a l'apesanteur qui est nulle, c'est-à-dire que vous remplissez cette salle d'eau et vous mettez à plonger, vous mettez le défi de passer sous une chaise, je vais le faire sans aucun problème.
Mais je risque de flotter un moment. Hein.
Vous reprenez cette même salle sans eau et vous me demandez de passer sous la chaise. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, quand on est en plongée, eh ben, on est, semblable au moniteur. On ne voit pas. Alors, c'était soit on fait de la plongée, où on va avec notre ami qui est revenu il n'y a pas si longtemps que ça de l'espace, passer un séjour avec lui. Mais on a préféré la plongée quand même.
C'était moins coûteux.
Oui,
puis la préparation est plus facile.
Voilà.
J'imagine. je vais peut-être naïvement poser une question comme ça, mais cette notion de loisir, finalement, où on pourrait se dire le loisir, c'est la cerise sur le gâteau une fois qu'on est bien dans sa vie, qu'une fois qu'on a assuré les besoins, j'ai envie de dire primaires, de déplacement, de travail, de vie sociale. Et à ce moment-là, seulement, on peut penser au loisir. Je perçois à travers ce que vous me dites depuis tout à l'heure que finalement, le loisir n'a pas forcément cette place de second plan, et en tout cas dans le sport adapté, dans les personnes en situation de handicap.
De toute façon, le sport, c'est le premier. C'est-à-dire que si on fait du sport, après, ça coule de source. C'est-à-dire que le sport va vous permettre d'aller à un entraînement à heure fixe, un jour fixe, et petit à petit, vous allez vous réinsérer.
Exactement.
Et réinsérer par le sport.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, ouais, première réaction dans la salle, bonsoir.
Oui, bonsoir, je m'appelle Christophe Artie, moi je suis schizophrène, et c'est tout à fait vrai ce qu'on dit, parce que souvent nous, les personnes handicapées, moi je suis handicapé psychique, je suis schizophrène, on est souvent retrouvés à être isolés, tout ça, et c'est beaucoup plus dur, on est dans l'isolement, alors d'avoir des associations, tout ça tout autour, qui nous encadrent, ça nous permet de sortir du quotidien, vraiment d'aller de l'avant, tout ça aussi. C'est pour ça que j'aimerais remercier la Maison de la Santé aussi, Madame Marigliano, qui fait un travail phénoménal sur Évreux. Voilà, il faut s'aérer la tête, parce que quand vous êtes dans l'isolement, c'est là que viennent les angoisses, les anxiétés, où vous renfermez vraiment sur vous-même. Et comme on dit, si elle fait des belles aussi choses, ça avance vraiment bien dans l'handicap, quoi.
Du coup, le loisir, l'accès au loisir, alors en sport en particulier, c'est ce qu'on évoque à l'instant, mais j'ai la sensation que l'accès au loisir, finalement, ce serait une porte d'épanouissement.
Moi, j'écris beaucoup. Moi, ma thérapie chez moi, c'est l'écriture. Moi, et je conseille je fais du slam. Je conseille de tous ceux qui veulent m'écouter, veulent me suivre. Je remercie la ville d'Évreux et tous les alentours de m'écouter sur YouTube avec mon compte YouTube Topher de Créteau. C'est la poésie, c'est la thérapie. Moi, c'est vraiment l'écriture qui m'a plus aidé qu'un peu, quoi.
Le sport, c'est vraiment l'épanouissement, parce que, moi, tu te souviens, Roland, là, quand la première fois que j'ai volé, je marche. Plus du tout, je parlais plus du tout, et après mon premier vol, j'ai promis qu'un an après, je parlerai et je marcherai. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à l'orthophonie et à vouloir vraiment m'en sortir, et je me suis remis à parler et à marcher. Le sport, pour nous, c'est vraiment ce... ça nous permet de réellement de vouloir nous battre, de nous épanouir, d'accepter le handicap, entre autres. Oui, parce que c'est pas évident de l'accepter.
Oui, comme dit Fatia, c'est vraiment pas s'isoler, aller de l'avant et d'avoir des objectifs. Il faut se créer des objectifs, sinon vous restez cloîtré chez vous, être isolé, vraiment enfermé, et vous sortez du système social totalement, quoi. Et voilà, tout simplement, quoi, c'est une thérapie, quoi.
Je vais m'adresser un petit peu à tout le monde, parce que je sais qu'il y a d'autres professionnels dans la salle ou d'autres personnes qui interviennent sur le milieu du handicap. Est-ce que finalement, faire ce qu'on appellerait de l'activité adaptée, alors vous me reprenez si mon vocabulaire n'est pas bon, bien entendu, hein, mais en tout cas, est-ce que faire de l'activité adaptée, le sport adapté, en tout cas des activités qui aménagent en tout cas un accueil plus large, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est coûteux, est-ce que c'est en termes d'organisation, d'encadrement, quelque chose de difficile?
Ça exige, parce que on est obligé de faire les choses propres, on est obligé de faire sérieusement, parce que toute activité sportive implique un peu de risque, et la nôtre
en particulier
mal,
quand même.
Et du coup, on est obligé de faire les choses sérieusement. Ça, c'est un premier niveau. Et donc de se qualifier, de se former. On ne s'improvise pas biplaceur déjà à la base, et biplaceur handicap, encore plus, il faut une qualification fédérale qu'il faut acquérir. Ensuite, ça nous oblige à mettre les moyens. Mais les moyens, ils viennent aussi avec le temps. Au début, on a emprunté des fauteuils adaptés, on ne les avait pas. Après, on a monté des dossiers. Il a fallu faire la preuve et demander des subventions, et demander des aides. Ça nous a beaucoup plus apporté que demandé. J'ai envie de dire que ça a été un levier dans la vie du club. Cette rétribution qui est cette confiance qu'on nous donne, ce chemin qu'on fait avec nous, le regard des institutions, des partenaires, des collectivités, comme la ville d'Évreux, comme le conseil départemental, qui nous disent « Ok, on vous soutient ». Alors, on ne mettra pas tout, hein, on mettra une partie, vous aussi, voilà, mettez des fonds propres. Et puis les mécènes, les partenaires, les sponsors. Et ben, tout ça, ça amène à faire partenariat et à faire levier de la vie associative pour qu'on arrive à mener au bout ces projets. Ce n'est pas tout seul, mais ça apporte à un club une telle pêche, à tellement de joie de pratiquer notre activité et de la partager, qu'on est largement rétribué en termes humains, en termes de vie partagée.
Arnaud oui, Leblanc, que... vous, en tant que président des Kawan plongeurs, Andy Plongeur, pardon. Ouais. Et juste après, je vous redonne la parole. Mais je voulais juste entendre voilà, l'intervention d'Arnaud sur est-ce que voilà, bah, c'est facile à organiser ? Est-ce que finalement, c'est du coup, organiser des activités accessibles est accessible ?
Oui, bah, c'est pas évident parce qu'il faut trouver la bonne centre de plongée qui va accepter de vous accueillir.
Pourquoi ils n'accepteraient pas d'ailleurs ?
Parce qu'il y en a qui ne sont pas équipés.
D'accord, c'est sur les équipements des lieux de plongée.
Il faut d'abord savoir que c'est l'embarquement des Andis sur un bateau, bah, c'est difficile. Il y en a, c'est des pontons qui arrivent à hauteur. Il y en a d'autres, bah, ce n'est pas du tout arrivé à hauteur. Il y a une anecdote. Le matin, en plongée à Hurghada, bah, il y avait un mètre entre le quai et le bateau. Et bah, avec, oui, alors on pouvait lancer l'Andy. mais après, bah, on leur a dit que non, c'est pas possible, il faut quelque chose pour descendre. Et eux, bah, ils ont fait, avec trois morceaux de bois, ils ont fait une rampe pour qu'on puisse descendre dans le bateau. Et on est parti faire la journée en plongée. On est revenu. Il y avait une rampe toute belle.
Ah oui, ils l'ont installée.
Ils l'ont
entre
fait
deux.
Entre deux. Mais voilà. Mais
là, il y a une histoire de volonté. Clairement, il y a une histoire de volonté. On veut ou on ne veut pas.
Mais ça dépend des personnes. Et pour la plongée, c'est comme disait Roland, il faut directement que les formateurs de la plongée sont tous bénévoles. Donc ça, c'est du gros travail qui donne du temps, qui donne du temps à autant qu'ils n'ont pas à aller avec leur femme et leur enfant. Faire une balade en forêt, mais ils donnent au Kawan. Donc, et déjà, c'est pouvoir leur donner la chance de se former pour pouvoir accueillir des andis et pour pouvoir les faire plonger. Donc ça, la plongée est quand même un sport à risque, comme le vol libre. Donc il faut être strict sur l'encadrement.
Monsieur, vous souhaitiez intervenir ?
Oui, puis se retrouver entre nous, entre personnes handicapées, c'est vraiment valorisant parce qu'on s'en comprend, on sait les difficultés qu'on a là dans la vie de tous les jours du quotidien. On sait qu'on ne supporte pas le regard des gens au moins sur nous. On est tous égaux, on est tous pareils, on est tous avec les forces, on est là pour prendre du plaisir. Il n'y a pas de concurrence, il y a tout ça. Et on va tous ensemble de l'avant, tout ça, juste prendre un bon moment de plaisir ensemble et s'évacuer, quoi.
Très bien. Sur ces histoires de loisirs, je vous propose de fermer la page, à moins qu'il y ait une intervention en salle. On va se faire une courte pause musicale et on arrivera juste derrière avec cette notion d'équipement, cette notion d'organisation dans la vie, je dirais, ordinaire, dans le loisir, mais au-delà du loisir. Nous ferons référence notamment à certains textes qui avaient une décennie pour se mettre en place. Et nous regarderons ensemble où nous en sommes. Aurélie, je me retourne vers toi et te propose une première pause musicale.
Darle frente y sacarme la espina clavada en mi mente. Fui víctima de este accidente, fui la mala gente y comprendo por qué no me hablaste de frente. Creo justo que sepas que nunca fuimos rivales, que mis cosas me dijeron lo que vale. Papito, no te me enfades, mamita, no te me enfades, que con esta voy a ganar todo lo que cae. La vida te da sorpresa, sorpresa que da la vida. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Siguiendo la poesía, la falta, la hipocresía, el mercante va a buscar su mercancía.
Qué manera de esperar y no llegar, qué manera de mirar para afuera, qué manera de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo, qué manera de esperar y no llegar, qué manera de mirar para afuera, qué manera de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo.
Esta noche por no estar conmigo fue imperativo que te reemplazara. Porque me dolía que por este cuerpo desde hacía años no pasaba nada. Esa noche por no estar conmigo fue imperativo que te reemplazara. Porque me dolía que por ese cuerpo desde hacía años no pasaba nada.
Primeramente creo que tenía miedo, me desnudó la mirada de ese pobre bandolero. Bandolero, bandolero, ero, comenzó a tocarme y soltarme pelo. Yo no quería, pero sí quería, pero no quería, pero. Y me dejé, y me dejé, y me dejé. Y me llevó hasta el cielo. Primeramente creo que tenía miedo, me desnudó la mirada de ese pobre bandolero. Bandolero, bandolero, ero, comenzó a tocarme y soltarme pelo. Yo no quería, pero sí quería, pero no quería, pero. Y me dejé, y me dejé, y me dejé. Y me llevó hasta el cielo. Yo no le tengo miedo a nada. Yo ando en la carretera solita en la ciudad. Apúrate que no vamos muy lejos los de atrás. Aquí todo se sabe de la misa a la mitad. Me lo he pasado bien como tú con las demás. Lo hice con talento, con mucha complicidad. Lo hice porque quise y porque no podía más. Se ocuparon de mí y de mi intimidad. Y ya tú estabas lejos cuando me fui a caminar.
Qué manera de esperar y no llegar. Qué manera de mirar para afuera. Qué manera de lo que te has perdido. La noche de anoche por no estar conmigo. Qué manera de esperar y no llegar. Qué manera de mirar para afuera. Qué manera de lo que te has perdido. La noche de anoche por no estar conmigo.
Esa noche por no estar conmigo fue imperativo que te reemplazara. Porque me dolía que por ese cuerpo desde hacía años no pasaba nada. Ayer esa noche por no estar conmigo fue imperativo que te reemplazara. Ay, porque me dolía que por este cuerpo desde hacía años no pasaba nada, nada, nada.
La Dame Blanche avec le titre Esa Noche. Programmé samedi 10 juin, donc ce samedi à Grosseuvre, pardon, à l'occasion du festival Ça sonne à la porte.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après, s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
Nous sommes toujours en direct, en live et en public de l'Abordage Club où nous avons cette première soirée autour de temps d'échange co-organisé avec le RIF, c'est le bar associatif de la MJC. Voilà, on est bien installé, on tourne, on vire, on est en train de grignoter. Le bar est ouvert, hein, bien entendu. Et puis, nous échangeons. Durant cette courte pause musicale, nous avons échangé en off, hein, tous autant que nous sommes. Monsieur Pignon, vous cherchez Annie, c'est ça ? Annie souhaitait intervenir. Nous avons eu des échanges avec Annie hors micro durant cette pause musicale. Et nous nous sommes dit, partageons-les avec les auditeurs avant de passer à un sujet suivant sur lequel chacun pourra s'emparer du micro, bien entendu. Annie, nous échangeions sur les loisirs, justement, et vous me disiez ce que disait Fatia. Ça a fait écho, en tout cas, pour
ça
vous.
Ça fait écho pour moi.
Et alors, dans quel sens ça a fait écho pour vous ?
Ça fait écho parce que je trouvais que, du coup, ce mot loisir était bien faible par rapport au ressenti qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a un dépassement de soi, évidemment, mais du coup, ils mettent en place des formes de thérapie, ils s'auto-traitent dans ces affaires-là, et que le mot loisir, c'est trop faible. Quand son mari a dit tout à l'heure que le premier mot est revenu dans le ciel, et donc ce choc émotionnel de l'activité, du dépassement, l'a fait exploser, du coup.
Vous me disiez, c'est de l'automédication et ça, cette force-là, en tout cas, c'est, chez certaines personnes, ça a ce déclenchement-là, en tout cas, de pratiquer du loisir,
que
du
là,
sport.
Je pense que là, c'est le choc émotionnel de la vue et de l'endroit où il se trouve, et que du coup, cette plénitude-là et la non-souffrance du corps, puisque le corps, il est soulevé, il est emmené, tout comme, je pense, vous pouvez le ressentir dans l'eau, et que ce choc-là fait l'émotion, et l'émotion traite, et l'émotion emmène, et l'émotion, voilà.
Mais sauf que nous...
Ça, voilà, Fatia nous dit au loin, vous l'entendiez pas forcément, mais elle disait, c'est ça, oui, exactement, c'est ça Fatia.
Oui, c'est ça, parce que on n'a plus mal, on est tout léger, on est serein. Et même que Pierre-Paul à la Coupe Picard, il a dit que c'était aérothérapie, moi.
Oui, c'est ça.
Oui.
Parce qu'en plus, nous, le seul inconvénient qu'on a, c'est qu'on a une réserve.
Et puis, vous ne pouvez pas crier, vous, pour soulager l'émotion.
Nous, on est sous l'eau, on peut crier, mais il n'y a pas personne qui va entendre. Donc, voilà, que des bulles. Mais peut-être à la surface, on ne sait pas, on n'a jamais essayé.
Mais c'est vrai, hein, je te promets. Tu peux demander à Roland, à chaque fois qu'il fait voler un Andy ou qu'un biplaceur fait voler un Andy, la première chose qu'il fait, eh ben, il crie et il tend les bras. Parce que
j'ai crié, moi.
Oui.
Oh, de peur, peut-être, non. Mais... En tout cas, tu as fait un super sourire. Les images qu'on a prises avec les caméras de sport nous montrent bien cette exaltation en vol.
Ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que dans votre association, vous mélangez les valides et l'handicap. Et que c'est ça qu'il faut développer, absolument, le mélange des deux. Je ne pense pas que d'enfermer, et moi je l'ai vécu à Navarre quand je travaillais, d'enfermer la maladie, de mettre tout le temps à l'abri et à loin des regards, que ça change les choses. Et c'est le mélange, c'est la diversité. Quand je les entends, je trouve ça tellement émouvant, tellement fort, ce qu'ils disent là, que des gens valides ne sont même pas capables de dire, souvent.
Et nous, il y a une chance aussi, c'est que nous, on fait plonger des handis, mais en même temps, on fait plonger des enfants, dès 8 ans. Et à un moment donné, on est tous dans l'eau, et on ne voit plus rien. Hein. Et c'est ça qui est très fort.
On a aussi une activité enfant avec Andy Ciel, avec le service enfance de l'APF ou avec les papillons blancs. On est parti sur une belle aventure quand on a fait les 4 papillons blancs à la Copica, où on avait des immenses ailes de papillons et des biplaces en fauteuil. La chose que je voudrais dire, c'est que au niveau de cette phase, on a l'avant, le pendant et l'après. Et il y a quelque chose dans... Je pense qu'avec la plongée, il doit y avoir un peu cette même chose. Il y a, est-ce que je vais oser y aller? Est-ce que je vais oser passer à l'acte de sortir mes pieds du sol et de m'embarquer dans cette aventure? Il y a l'aspect donc, défi, relevé pour moi-même. Après, il y a la partie pendant où, comme le dit si bien Fatia, il y a cette sérénité, cette exaltation en vol. Et puis, il y a après... Cette phase où on se dit, mais j'ai réussi. C'est pas seulement le pilote, les bénévoles, toute l'équipe qui a réussi ça, c'est la personne, un biplaceur, même si la personne est en fauteuil, il a besoin que la personne veuille voler. Et la vie dans la tête. S'il y a le moindre obstacle qui est de j'ai pas vraiment envie ou j'ai trop le doute, le pilote, il faut qu'il le sente et qu'il faut qu'il accepte. Ça arrive quelquefois, la personne dit aujourd'hui je vole pas, aujourd'hui je le sens pas, et ça avec humilité, on doit accepter que les conditions amènent à un refus, amènent à une report du vol.
Oui, parce que pour nous à la plongée c'est exactement pareil, il faut que les personnes, les handis puissent, ils sont déjà ouverts à la plongée, et il y en a comme vous, il y en a qui une fois dans le bateau, une fois sur le bord de, ils vont pas. Il dit non, je me sens pas. Je me sens pas aller dans l'eau. Mais une fois qu'ils sautent, on les revoit pas pendant 20 minutes. Et une fois qu'ils ressortent, ils ont une banane d'enfer. Et ça, ils dorment bien la nuit, hein, parce qu'ils voient les poissons partout. Hein.
Alors là, pour le coup, pour avoir eu l'occasion moi, de tester également en biplace le vol libre et la plongée, j'ai eu à peu près le même comportement. Ce n'était pas dit que j'aille une fois que j'étais sur le bateau. On avait beau avoir fait, je sais pas, on appelle ça des nœuds en nautique. Hein. On avait beau avoir fait des nœuds. Ce n'était pas gagné que j'aille dans l'eau non plus. Ce n'était pas très rassurant. Et puis, pareil sur les vols biplace. Voilà, on se pose toujours la question avant de décoller. En tout cas, la première fois. Étonnamment, ça a été la dernière. Mais ça, c'est une autre question. Pardon, alors, attendez, oui, mettez le micro.
Vous avez fait des acrobaties ?
Mais ça va pas, Fatia, n'importe quoi. Déjà, j'étais sur le plat. Je disais au pilote, d'ailleurs, je vais rester sur le plat. Hein.
Mais moi, j'en ai fait, hein. Ah oui, Roland.
Non, mais j'en suis pas là, moi. Hein.
Eh ben, c'est dommage, hein. Tu sais pas qu'est-ce que t'as raté. Moi, j'en ai fait avec Nico. Hein. Nico, c'est le président du club. Hein.
Ben, si l'occasion se représente, je dirais, bon, allez, envoyez pour une acrobatie ou deux. Fatia m'a conseillé de faire ça. Non, mais plus sérieusement, du coup, finalement, c'est les mêmes difficultés, finalement, celles des personnes en situation de handicap que les personnes valides. Parce que moi, ça me faisait écho. Hein, c'est est-ce qu'on va y aller ou pas y aller quand on a la voile accrochée derrière. J'ai vérifié plusieurs fois, hein, même si le pilote l'avait vérifié, j'ai vérifié à sa place aussi. Sur la plongée, il y avait les mêmes, y a le même genre de situation, oui. Finalement, valide ou handicap. On est face aux mêmes difficultés. Peut-être qu'il y a un autre enjeu, effectivement, quand on est en situation de handicap, mais on est face aux mêmes problématiques, hein, finalement. Et là, ça s'estompe complètement.
Bah déjà, quand Landy plonge avec son moniteur, il sait très, enfin, Landy, il lui laisse sa vie. Hein, entre les, hein, c'est un peu dur, mais il laisse sa vie. Il dit qu'il a totalement confiance. Donc là, c'est aussi l'osmose entre le moniteur et Landy. Si Landy voit un moniteur qui vient de, pour une fois, plonger avec lui, il va être très tendu. Il va être, il va pas arrêter de regarder son manomètre. Il va pas vite sa plongée avec une plénitude absolue.
Voilà. En tout cas, je vous en prie, Annie.
Si je peux me permettre.
Vous pouvez.
L'handicap n'est pas simplement l'handicap fauteuil. Il faut parler de l'handicap invisible.
Monsieur, tout à l'heure, monsieur l'évoquait.
Monsieur peut, effectivement, c'est très important de pouvoir élargir la discussion autour de ça.
Tout à fait.
Ce qui est visible aujourd'hui en France, effectivement, ils ont fait des tas d'efforts en termes d'aménagement, des lieux publics, etc. Mais ne jamais oublier tous ces gens qui souffrent tout seuls à la maison sur des handicaps qui ne se voient pas.
Alors, il faut juste souligner, ça doit être pour ma part, et je pense pour Roland, mais je parle pour moi d'abord, que quand je dis Andy, je mets tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire que.
Dans la même piscine, en l'occurrence.
Dans la même piscine. C'est vraiment, je ne fais pas de distinction. La preuve, j'ai eu des enfants où je faisais une formation avec eux sur le sport. Et ils m'ont dit, mais ils sont où les Andy ? Parce qu'ils ne voyaient pas de fauteuil roulant. Et ils me voyaient debout. Et ben dis non, moi je suis Andy. Je ne suis pas en fauteuil roulant, mais je suis Andy. Donc maintenant,
je pense que vous avez effectivement cette bonne démarche. Ce que je veux dire simplement, c'est de la part des gens qui souffrent tout seuls et de l'effort que cela leur demande de se réinsérer dans des associations, dans du sport.
Oui, mais c'est vrai que c'est beaucoup dans les mœurs françaises, même occidentales, que pour souvent un handicapé, souvent une personne en PMR, personne
à mobilité réduite en PMR.
Ouais, voilà, souvent. Et pas un handicap invisible, qu'on est debout, que nous aussi on est un handicap, on est des personnes un peu plus fragiles. Souvent on a des angoisses et des anxiétés, mais vachement fortes, qui nous sont terribles. Pour moi, la schizophrénie, on est des entendeurs de voix en période de délire, c'est vraiment des trucs vachement forts. Et c'est très dur des fois aussi. Et comme a dit la dame, l'handicap invisible aussi, il faut vraiment le mettre aussi sur le devant aussi l'handicap psychique, quoi. Et que l'handicap psychique est différent de l'handicap mental, c'est ça qu'il faut savoir aussi, quoi. Ce sont deux choses différentes aussi, quoi.
J'aurais la sensation que finalement, face au handicap psychique ou au handicap de mobilité, on pourrait se dire, celui de la mobilité, on voit bien la solution qu'on peut apporter. On voit bien comment est-ce qu'on peut agir sur ce handicap de manière rapide, c'est la mobilité. Donc, bah, ce sont des accessibilités sur les bâtiments, ce sont des activités, comme vous venez d'évoquer, ce sont des choses comme ça. Et puis, quand on aborde le handicap psychique, bah, finalement, bah, la rampe, ça sert à rien. C'est, vous voyez, c'est le fauteuil ou l'adaptation de l'activité paraît moins évidente. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai la sensation que l'adaptation est moins évidente, en tout cas, pour le monde extérieur.
Mais après, c'est grâce à des associations comme il y a Handiciel, tout ça, ou des associations comme il y a la Maison de la Santé aussi, ou sur la ville d'Evreux aussi. Parce que souvent, on est des personnes qui s'isolent et on n'ose pas non plus parler de ses angoisses ou de ses anxiétés à tout le monde non plus, ou on en parle à son psy, mais on n'en parle pas à tout le monde. Souvent, on est incompris par sa famille et ses amis aussi, parce que c'est très dur aussi à comprendre. Des fois, on peut avoir des changements d'humeur comme ça, ou des propos d'incohérence et... Mais il y a des belles associations qui nous aident à aller de l'avant, tout ça, tout simplement. Et il faut se fixer des objectifs, comme on parlait tout à l'heure en début d'émission, pour bouger, pas rester chez toi, en cloisonné, quoi, tout simplement. Il faut aller de l'avant, quoi. Et bien suivre son traitement, quoi. Je veux dire, c'est moi, schizophrène, j'ai un traitement à vie. Je me compare à un diabétique qui a besoin de son insuline. Toute ma vie, j'aurai besoin de ma piqûre d'Aldol. Et ça, je l'ai accepté. C'est la première étape de la guérison d'un schizophrène, quoi. C'est accepter sa maladie, quoi. Et ce que je tenais à dire aussi sur la schizophrénie, c'est que certaines personnes nous voient, comme dans les séries américaines ou Esprit criminel, que l'on est tout de suite des fous, des meurtriers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un schizophrène ou un bipolaire se fera beaucoup plus de mal à lui-même qu'il fera du mal avant d'abord aux gens. Et je tenais à le souligner aussi, parce que c'est dans les mœurs occidentales qu'un schizophrène est tout de suite fou, ou un meurtrier, ou un tueur en série. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui tue un schizophrène, un truc comme ça, ça va faire la une des journaux pendant X temps. Mais il faut savoir qu'un dépressif est beaucoup plus dangereux qu'un schizophrène, quoi.
C'est vrai qu'on souligne beaucoup moins quand il y a un incident avec un gaucher, par exemple. Non, mais c'est un peu une boutade, mais finalement, oui, non, mais finalement, on vient chercher quelle est la particularité qu'on a envie de mettre en avant quand il y a une problématique. Roland, j'ai vu que vous aviez pris la parole. Il y a une demande de parole un peu plus loin. Ben, on fera circuler le micro. Parfait. Roland.
Là où je voulais apporter, c'est l'effort qu'on fait dans un club. C'est important d'avoir ces formations, ces préparations qu'on peut avoir, où on travaille avec le comité départemental olympique sportif, avec les ambassadeurs du handicap, et se mettre à la place, ne serait-ce qu'en faisant un parcours comme si on était aveugle, et mettre un bandeau sur les yeux, guidé par quelqu'un qui est réellement aveugle, qui sait ce que c'est, ou d'avoir ce parcours en fauteuil. Voilà, cet exercice, ça a beaucoup fait bouger dans le club, ces deux sessions qu'on a fait, où... on s'est mis les pieds dans les baskets de quelqu'un qui serait en situation de handicap, que ce soit mobilité réduite ou cécité ou d'autres choses. Sous forme d'exercice, en plus, c'est marrant. Alors, c'est marrant en 5 minutes, parce qu'on ne vit pas ça au jour le jour, mais ça fait bouger le regard de se mettre et de se rendre compte du quotidien à travers ne serait-ce que des exercices, surtout quand ces exercices sont pilotés par des gens qui le connaissent, voilà, au jour le jour, au quotidien, pour aller plus loin.
On va faire tour.
On avait fait ça une journée Andy, tu rappelles ? Et ben c'était ici à la MJC, et même que on en a fait essayer nos fauteuils et qu'il est aveugle, je me rappelle plus comment il s'appelle, Frédéric.
Frédéric.
Il nous a fait un parcours pour que nous en fauteuil ou que vous soyez debout, qu'ils savent c'est quoi la cécité.
Avec Gilles aussi, merci.
C'est effectivement essayer les choses. Il y avait eu une expérimentation, non, une soirée à thème il y a un peu plus d'un an, je crois. La Christine, je vous interpelle directement sur les repas à l'aveugle, oui, notamment, oui. Qui sont des expériences à essayer en tant que valide pour peut-être changer son regard, justement, pour le coup.
Tout à fait. Nous avons organisé avec le collectif Les Tisseurs de Liens et les Chiens Guides et l'association Valentin Huy deux repas dans le noir. Qui se sont très très bien passés. Les gens ont été très contents, quelquefois un petit peu angoissés au départ, hein, mais voilà, ils se sont pliés au jeu et c'était vraiment très agréable. La première fois, en fait, on s'est rendu compte que quand les gens avaient un bandeau sur les yeux, ils parlaient beaucoup plus fort. Donc c'est terrible. On s'y attendait pas du tout pour le. Alors la fois d'après, on a limité le nombre de convives. On a essayé de les rapprocher un petit peu. Mais non, on va en organiser un à la fin de l'année là. Et je voulais aussi témoigner, alors en tant que maman, hein, de l'accueil que ma fille a reçu. Ma fille est autiste. A reçu dans deux clubs sportifs, un à Évreux et un autre à Saint-Sébastien-de-Morsan. Claire voulait faire de l'équitation, donc on s'est présenté au Haras de Valem, pour ne pas le nommer. On a précisé la problématique de Claire et ils nous ont dit, bah, écoutez, on va essayer, on va faire un premier cours et puis on verra comment ça se passe. Ça s'est bien passé et Claire pratique l'équitation depuis plusieurs années. Hein. Je ne dis pas qu'elle va au galop, hein, mais bon, j'ai vu certaines fois l'emmener où elle était particulièrement énervée, où elle m'avait claqué la porte de la voiture au nez, et après aller la récupérer, mais apaisée, détendue. Donc voilà, on parlait de thérapie, mais là, vraiment, vraiment, c'est une véritable thérapie. Et elle pratique aussi la gymnastique à Saint-Sébastien de Morsan, hein, puisque le foyer où elle est accueillie incite les personnes qui sont au foyer à avoir une activité, hein, que ce soit une activité culturelle ou une activité sportive. Donc ça, je trouve ça très, très bien. Et elle est très contente. Le groupe dans lequel elle est vraiment l'a accueillie comme quelqu'un lambda. Et je trouve ça très, très bien. Je voulais aussi juste ajouter une chose. Quand elle était plus jeune, on est parti au sport d'hiver. Et elle a appris à faire du ski. Ma fille autiste, très maladroite, qui se cogne partout, a appris à faire du ski grâce à une monitrice qui l'a prise en cours particulier et qui, elle s'est interrogée donc justement par rapport à ses enfants différents. Et elle nous a dit qu'elle avait fait, elle, une formation handisport et que maintenant, elle est capable d'accompagner des personnes en situation de handicap sur les pistes. Donc voilà, moi, je pense que si on ose aller au-devant des clubs et de faire la demande, on ne nous ferme pas la porte. Hein. Il y a des réponses positives avec des accompagnements positifs. Et ça, je trouve ça... Voilà, il faut oser. Il faut oser parce qu'on ne s'autorise peut-être pas à se dire bah « Non, ça ne va pas être pour nous, ça va être trop difficile pour elle, etc. » Mais non, finalement, on trouve de belles personnes. Et on a fait vraiment de belles rencontres. Voilà ce que je voulais dire.
Alors, je continue à me garder cette question. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle, alimentera mon questionnement, mais je reviens un petit peu en arrière sur ce fameux handicap psychique où finalement les solutions sur le handicap moteur me sembleraient à moi. Et quand je dis des bêtises, vous me reprendrez, bien entendu. Hein, n'hésitez pas, je suis là pour dire des bêtises, hein, de toute façon. Mais en tout cas, ce handicap physique, en tout cas, ou moteur, nous paraît évident, plus simple en tout cas à combler. Aujourd'hui, on voit notamment à travers les Jeux paralympiques quand même, qui sont une vitrine aujourd'hui quand même du sport adapté, qu'il y a la technologie qui vient à l'aide de l'handicap moteur. Sur le handicap psychique, ça me paraît en tout cas moins évident, cette adaptation à l'activité, cette adaptation d'ailleurs pas forcément à l'activité sportive ou de loisirs, mais plus globalement, cette adaptation. Comment, quand on dit qu'il faut prévoir des choses pour adapter au handicap nos structures, nos activités, nos actions, notre monde dans lequel on évolue, notre environnement de manière très, très générale. Voilà. Est-ce qu'il y a une façon de raisonner ? Est-ce qu'il y a des solutions, des choses évidentes qui ne le sont a priori pas pour moi, mais sur le handicap psychique ? Sur l'adaptation. Alors, je veux bien dans un micro, parce que du coup, comme on est en direct, les auditeurs n'auront pas le contenu.
La seule chose qui est en commun dans les deux handicaps, c'est le corps, la souffrance du corps. Le malade en position de maladie psychique mentale a une telle souffrance du corps que c'est la prise en compte de ce corps, mais de la même manière, quand je vous entends tout à l'heure, c'est aussi cette histoire-là. Et qu'effectivement, c'est moins évident parce qu'on ne sait pas comment faire, comment aborder. Moi, je me suis intéressée à la danse à travers cette souffrance du corps. Quand je travaillais comme infirmière, je me disais, mais ils sont malades là, ok, mais tout ce corps qui souffre, tout ce corps qui est en difficulté. Donc la danse me paraissait un moyen de pouvoir les emmener dans un univers artistique différent et de leur redonner une place de danseur. Et essayer de les éloigner de cette place de malade.
Moi, c'est l'écriture
Excusez-moi, le micro n'était pas ouvert, je vous en prie. Non, alors toujours pas, excusez-moi, on va recommencer, c'était le micro bleu.
Moi, c'est l'écriture qui m'aide beaucoup, j'écris beaucoup. Et c'est vrai que, mais aussi, et le regard des gens, que ça compte beaucoup aussi. Quoi. C'est le regard de la société sur l'handicap psychique. Il y a un travail phénoménal à faire, forcément. Dès que vous allez n'importe où, même en pharmacie, quand vous vous demandez vos Taldol ou vos injections, vous le sentez, vous n'êtes pas bête non plus, vous sentez que celui qui est en face de vous vous regarde déjà d'un regard différemment. Quoi. Mais il y a eu quand même des belles avancées aussi, quoi. Mais après, c'est vrai que l'handicap visible est beaucoup plus facile parce que l'interlocuteur qui est en face de nous a directement une information que la personne est handicapée, quoi.
Oui, mais nous, par exemple, pour la plongée, on n'a pas trop de problèmes à faire plonger les personnes à mobilité réduite moteur. Mais là où il y a un petit problème, c'est pour tout ce qui est maladie psychique. Parce que on ne sait pas encore, on commence à faire plonger des gens qui sont malades, mais quand on est à 10 mètres sous l'eau, on ne sait pas comment va faire la personne, si elle est prise d'angoisse ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu plus difficile. Donc il y a des avancées, mais c'est pas encore ça. Alors que la personne qui est hémiplégique ou le tétraplégique, on le fait avec un petit scooter marin, il fait son trajet dans l'eau. Mais on a trouvé un moyen de changer, de refaire ses mouvements, non pas parce qu'il a plus l'utilisation de ses jambes. Alors, il utilise un scooter. Mais là, on sait faire. Mais c'est vraiment pour dire que tout ce qui est psychique, c'est un peu plus délicat.
Fatia ?
Mais de toute façon, tu te souviens, Arnaud, moi, j'ai voulu faire de la plongée avec toi, mais le neurologue et le pneumologue me l'ont interdit. Mais moi, je pense que c'est pas seulement... C'est pas parce qu'on est handi que ce soit... invisible, psychique ou moteur, que c'est différent. Tout, il vient de la tête. Si on ne s'accepte pas, moi, je ne regarde pas le regard des gens. J'en ai rien à faire.
Oui, c'est bien dit. C'est bien dit.
C'est clair.
Attends, on est différent comme tout le monde. Donc, ce n'est pas parce qu'on en dit qu'on est différent. Les gens, il ne faut pas regarder leur regard. S'ils te regardent mal, c'est eux qui ne sont peut-être pas bien. L'essentiel, il faut que toi, tu acceptes ton handicap et tu accepteras d'aller vers les autres et de faire du sport. Que si jamais toi, tu te sens pas bien, tu n'acceptes pas ton handicap et tes problèmes, tu ne pourras jamais avancer, tu ne pourras jamais aller de l'avant. C'est peut-être ça qu'il faut se dire.
Mais moi, ce que je parle de l'handicap psychique, la première réalité de la guérison de l'handicap psychique, parce que moi, ma schizophrénie, c'est ma force, parce que j'ai un parcours assez dur dans les drogues, ce qui m'a déclenché une schizophrénie assez de bonheur. Et c'est une force. Mais ce qu'il y a, moi, je voulais dire aussi, on est capable des choses. Moi, j'ai quand même, je conduis un chariot élévateur et je gerbais des palettes à 5 mètres ou 6 mètres de haut à conduire un Fenwick dans une cour où il y a des enfants, des chiens. J'ai travaillé dans un gros matériau que je peux dire qu'on est capable aussi des choses aussi, mais il faut savoir donner le temps, quoi. Il faut savoir donner le temps. On ne peut pas nous demander tout du jour au lendemain. On ne peut pas être une personne aussi compétente qu'une personne qui est valide à 100% de ses moyens, quoi. On va être beaucoup plus fragile. Des fois, on va être dans ses pensées, on va angoisser. Ce qu'il faut savoir, un dépressif a une dépression, comme je répétais tout à l'heure, mais nous, nos angoisses sont multipliées par 10, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup plus dur et ça vous mine et ça vous pompe. C'est comme si vous avez une trappe au cerveau et qu'elle était ouverte et toutes vos pensées sont réfléchies, ça vous fatigue, ça vous fatigue et vous avez un poids vachement lourd, quoi. Et c'est très dur des fois la pathologie de la schizophrénie ou le handicap psychique pour le bipolaire, quoi.
Vous souhaitiez intervenir également.
Oui. Concernant le handicap invisible, faut pas oublier quand même que c'est 80% des personnes handicapées, hein, le handicap invisible. Alors bon, moi je suis visible là, mais il y a une période où c'était invisible. Et je ne sais pas si vous connaissez la problématique de la BPCO, ce qu'on appelle la BPCO, C'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Et c'est grâce à la cigarette qu'on a ça. Et en France, il y a quand même près de 2 millions de personnes qui sont atteintes de cette pathologie. Il y en a 200 000 qui sont sévères et 120 000 qui vivent avec l'oxygène. Et faire des activités physiques, on en fait. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous, l'activité physique, c'est primordial. On est obligé d'en faire parce que sinon, le handicap vient un peu plus vite. Donc, c'est pour faire reculer le handicap. Alors, on le fait avec plaisir, mais c'est vrai que c'est très difficile pour trouver des... en club, non, on peut pas. Parce qu'en club, j'imagine le coach sportif, s'il y a 50 personnes, il ne sera pas capable de nous assumer. C'est tout à fait normal. Ce que je comprends, ce que je comprends. Alors, on avait un petit espoir, je ne sais pas, vous en avez tous entendu parler, sur la pratique du sport sur ordonnance. Mais finalement, ça s'est arrêté. On fait du sport sur ordonnance. Le médecin délivre une ordonnance, mais pour tous les handicaps. Mais ça s'arrête là. On ne va pas plus loin, comme beaucoup de choses, on ne va pas plus loin. Et dans tous les handicaps, on fait ça. Sur les enfants autistes, parce que aussi, je suis concerné. On l'a fait de beaux décrets, on l'a fait des belles lois, et ça avance pas. Donc, les gens prennent conscience petit à petit, je crois. Mais c'est vraiment doucement, et c'est les associations qui se battent pour faire connaître tout ça. C'est pas le gouvernement, c'est pas... par contre, à la ville d'Évreux, il y a beaucoup de travail qui est fait de ce côté-là, et je les remercie aussi.
Très bien, à moins qu'il y ait une prise de parole maintenant.
Je voulais dire quand même, en disant, le handicap a plus qu'évolué en France, et avec comme des films intouchables, comme le film de Grand Corps Malade, Patient, tout ça, qui font voir vraiment des choses, sans signaler aussi le grand divertissement du samedi soir sur TF1, entre guillemets, sans faire de la publicité, The Voice, où une jeune fille aveugle qui avait gagné l'émission. Il y a beaucoup d'avancements sur le handicap aussi, il y a des trucs négatifs, mais il faut dire aussi des choses positives, qu'en 10 ans, ça a beaucoup plus qu'évolué aussi.
Eh bien, je vous propose que justement, ce soit l'objet de... Vous souhaitiez prendre la parole ? Je vous en prie, c'est l'heure. Si, c'est l'heure, je vous en prie, c'est maintenant. Alors, bien dans le micro, par contre, s'il vous plaît.
Je voulais rebondir sur ce qu'ont dit Gérard et...
Excusez-moi d'être insistant. Posez-le sur le menton, sinon vous allez voir. C'est parfait.
Voilà, là. Et je voulais dire qu'effectivement, le handicap invisible concerne énormément de personnes. En particulier, j'ai deux amies qui sont atteintes d'une sclérose en plaques et elles ne se sentent pas reconnues dans leur situation de handicap. En fait, cette maladie, comme beaucoup d'autres maladies, génère une grande fatigabilité, des problèmes de mémorisation. Une de ses amies continue de travailler et par moments, elle a l'impression que cette maladie, même si elle est reconnue sur le plan de la maison départementale des personnes handicapées, finalement, par ses collègues, par son entourage, c'est quelque chose qui reste un petit peu banalisé parce que justement, elle n'est pas assez marquante. Elles ne sont pas, pour une des deux n'est heureusement pas encore en fauteuil, mais malgré tout, dans le quotidien, ça impacte sa vie de tous les jours. Et c'est vraiment une souffrance qu'elle exprime régulièrement. Elle a encore aujourd'hui des collègues qui se demandent si elle est réellement malade, parce qu'effectivement, elle marche, elle bouge, elle sort. Fort heureusement, elle a des activités de loisirs. Et en même temps, extérieurement, ça n'est pas bien, bien visible. Donc, c'est une grande difficulté. Et par ailleurs, je voulais dire, toujours pour rebondir sur ces 80% de personnes qui, à un moment donné, peuvent se retrouver en situation de handicap. Pour ma part, il y a 3 ans, je me suis retrouvée en fauteuil pendant un peu plus de 2 mois. Et effectivement, quand on se retrouve bloqué dans son quotidien, c'est très difficile à vivre. On n'imagine pas tout ce que cela peut provoquer pour soi-même, pour l'entourage. Et notamment, on se retrouve énormément freiné, c'est dans l'autonomie et dans le fait de sortir. Et c'est vrai que quand on se retrouve en fauteuil, on imagine la difficulté physique consécutive, par exemple, à une opération. Mais en fait, le plus dur, c'est tout simplement de ne pas pouvoir ouvrir la porte de sa maison et sortir. Et on sait qu'il y a de nombreuses personnes qui, au quotidien, le vivent. Et c'est vraiment quelque chose sur laquelle on doit être tous attentifs. Voilà.
Je vous en prie, oui.
Et des fois, le plus dur, c'est pas que des personnes lambda, tous les gens qu'on croise tous les jours dans la rue, c'est pas eux le plus dur, c'est le jugement des proches, des fois, qui est le plus dur, de famille ou amis. C'est ça qui est le plus dur, parce que les proches nous jugent, en fait. Mais qu'une personne de tous les jours va pas nous juger, mais que les proches ou familles vont nous juger, c'est ça qui est le plus dur à porter. Ça nous touche intérieurement et c'est ça le plus dur à porter.
Alors, c'est vrai que dans ma pratique professionnelle, je rencontre des personnes qui sont issues de tous les handicaps, des personnes sourdes, des personnes aveugles, des personnes en fauteuil, des personnes ayant des maladies chroniques. Nous, maintenant, quand on les reçoit au bureau avec mes collègues, on ne pense pas, quand on a la personne avec nous ou les personnes, à des personnes en situation de handicap, c'est des gens. C'est des gens, c'est des prénoms, c'est des visages, des tempéraments, voilà. On peut être handicapé, avoir un fichu caractère, et on peut être avec plein de projets. C'est pas une norme, le handicap. Enfin, on est une personne avant tout.
Ça définit pas complètement une personne non plus. En tout cas, c'est pas l'intégralité de son identité n'est pas liée au handicap. Ça fait partie de sa vie, mais pas forcément. Ce n'est pas tout simplement son identité de manière générale.
Quand la réunion est finie, on parle. Voilà, où vas-tu en vacances? Qu'est-ce que tu fais de beau ce week-end? Enfin. Tout à fait.
Très bien. Bah justement, je vous propose qu'après la courte pause musicale qui nous attend, nous retrouvions sur la dernière partie, la dernière ligne droite. Vous allez voir, ça passe à chaque fois très, très vite. Autour notamment des thématiques, comme nous l'avons abordé, du statut, de la reconnaissance, du regard de l'autre, des avancées également qu'il y a eu aussi bien dans la façon de percevoir le handicap que dans la façon de vivre son handicap dans la société ordinaire. Nous reviendrons un petit peu, parce que ça, j'aimerais bien quand même, pour le grand public, on nous parle de la fameuse loi de 2005 depuis je ne sais pas combien de temps. On nous avait dit qu'en 2015, tout était réglé. Et je voulais savoir où nous en sommes. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. On se laisse le temps d'une courte pause musicale et nous terminons sur la dernière ligne droite avec les sujets que vous avez donnés. Parce que depuis le début, c'est vous qui tenez l'émission. Là. Non, j'aimerais bien placer les miens de sujets. We'll be right back. Voilà, nous sommes toujours en direct, en live et en public de l'Abordage Club à l'occasion de ces échanges que nous lançons. Voilà, Max qui est au comptoir, d'ailleurs il a ouvert le bar, hein, n'hésitez pas à aller le voir pour les personnes en salle. Max, a priori on part sur une série, hein, on va pas en rester sur une seule. Hein, normalement nous devrions nous refaire plaisir à organiser de nombreux échanges sur le RIF, c'est le bar associatif de la MJC. Aujourd'hui, la thématique est quelle place alors non, attendez, je l'ai écrit, on l'avait mieux formulé que ça au démarrage, hein, quand même. Je ne vais pas me moquer de vous et je vais vous le faire correctement. Le titre, très précisément, de la thématique, c'est « Quelle place donnons-nous au handicap aujourd'hui ?» Nous avons eu une heure d'émission qui vient de s'écouler, où nous avons parlé pas mal de loisirs adaptés. Puis finalement, on n'a pas parlé que de loisirs adaptés en abordant cette notion de loisirs. On a parlé de liens sociaux, on a parlé d'automédication, on a parlé de regard, on a parlé d'un tas de choses. Et pour ce dernier plateau, pour cette dernière ligne droite avant la fin de l'émission, je souhaitais aborder justement ces points que nous avons soulevés durant la soirée, qui sont notamment le regard de l'autre, ce fameux statut de personnes en situation de handicap, les avancées également qu'il y a eu, et notamment en lien avec cette fameuse loi 2005 qui était censée remettre à plat un petit peu la façon dont on considérait les personnes en situation de handicap. On nous resserre cette loi régulièrement comme étendard un petit peu des avancées sur la prise en compte du handicap et de la différence plus largement. Dans cette loi, il y avait une dizaine d'années pour mettre en place tout un tas de grandes lignes. Il y avait des lignes autour de l'accueil des personnes handicapées, du droit et des ressources, de quoi vivre, hein, tout simplement, les sous pour vivre, la scolarité, l'emploi, l'accessibilité, à la citoyenneté, à la participation à la vie sociale. Et puis, il y avait un tas d'autres petits amendements. Je crois que c'est une centaine d'articles, voilà, c'est 101 articles et 80 textes d'application. Qu'en est-il aujourd'hui? Ah oui, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, 101 textes et 80 décrets d'application, mais en tout cas, ça avait été quelque chose sur lequel il y avait eu beaucoup de communication sur cette fameuse loi 2005. Alors, je voulais faire un petit peu le tour là dans la salle et un petit peu quel est le regard des uns et des autres sur cette fameuse avancée que nous étions censés vivre ces 12 dernières années. S'est-elle vraiment passée, cette avancée dans la prise en compte, dans l'accompagnement, dans l'accès au droit, dans la participation à la vie ordinaire? Où en sommes-nous? Je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole autour de cette question-là globale. Hein, on peut dévier, bien entendu. De toute façon, vous faites ce que vous voulez avec les thèmes que je vous propose. Oui.
Ce qu'il faut savoir quand même avec l'AH, quoi, l'allocation adulte handicapé, on est quand même en dessous du seuil de pauvreté, nous. Alors, des fois, ce n'est pas très évident à vivre. Alors, je peux vous dire que les pâtes au gruyère, vous les mangez souvent. Il ne faut pas non plus voiler la face, quoi. Il y a des trucs, heureusement, qu'il y a des associations qui nous aident aussi à droite et à gauche, surtout la ville d'Évreux. Mais ce n'est pas évident, quoi. Je veux dire, des fois, on est en dehors de nos moyens. Moi, j'ai bien travaillé. Et quand vous mettez à travailler, vous n'avez pas droit à l'allocation adulte handicapé. Et quand vous avez l'allocation adulte handicapé, c'est parce que vous êtes handicapé et vous pouvez pas travailler, vous êtes en dessous du seuil de pauvreté, tout simplement, quoi.
Alors ça, c'est un premier point, moi, que je trouve plutôt choquant. J'avais déjà eu l'occasion d'en entendre parler de cette allocation qui était sous le seuil de pauvreté. Est-ce qu'il n'y a que moi que ça interpelle, et puis vous, monsieur, bien entendu, est-ce que c'est quelque chose qui doit se regarder plus globalement? Est-ce que non, on peut le regarder au premier degré et se dire que c'est juste pas possible? On touche à des notions autour de la dignité, enfin, je me permets, mais on touche à ces questions-là très directement. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite s'emparer du micro, parce que je n'irai pas plus loin. Un micro, s'il vous plaît, madame, si vous souhaitez vous exprimer. Super, voilà. On vous amène un micro jusqu'à vous.
Oui, je rejoins Christopher. C'est un élément très important, puisque c'est quand même aussi l'argent qui permet d'accéder aux loisirs, aux vacances. Et à partir du moment où on ne dispose pas suffisamment d'argent, on se retrouve d'autant plus pénalisé et restant à son domicile. D'ailleurs, c'est aussi une problématique qu'on retrouve chez les pour l'ensemble des minima sociaux, où le fait de disposer d'insuffisamment d'argent fait qu'on se retrouve isolé socialement. Donc c'est la double peine, oui.
Sur, ouais, si vous souhaitez prendre la parole, bah, n'importe quel micro, celui-là ou un autre.
De l'APF, c'est important quand même.
Je vous en prie, je vous en prie.
Il y a un petit texte, je vais vous le lire quand même.
Eh ben, allez-y, voilà. Je vous en prie.
Donc, quelle place donnons-nous à l'handicap ? Justement, au sein de l'APF, on se bat pour qu'il n'y ait pas une place pour les personnes en situation de handicap, mais que la société entière soit adaptée à tous les citoyens valides comme en situation de handicap, qu'ils ne soient pas cantonnés à une place. C'est tout l'objet de notre projet associatif, Bouger les lignes, pour une société inclusive, pour que tout le monde, chaque citoyen, ait accès à tout espace public, formation et emploi. Pour cela, on réalise des sensibilisations en milieu scolaire, des sorties dans le but de rompre l'isolement et d'accorder du répit. Nous avons des personnes présentes dans des instances comme les commissions d'accessibilité, par exemple, à la délégation. Nous sommes également en réflexion sur la question de l'emploi. Comment ? Oui, oui, c'est l'APF. Hein.
Oui, oui, donc, je le redirai à la fin, vous inquiétez pas, on le dira bien.
Voilà, donc on remercie l'APF aussi, hein, voilà. Elle est aussi pareil en communication aussi avec d'autres associations pour qu'on puisse faire des sorties, des loisirs. Justement, demain, on va à Giverny au Jardin de Monet, donc voilà, ce n'est pas des sorties trop chères. Et du coup, ça nous permet de sortir un peu. On va faire des sorties de bateau aussi. Hein. Et on remercie beaucoup les bénévoles qui nous aident de ce côté-là. Voilà. Et surtout, c'est que l'APF a besoin de bénévoles pour accompagner les personnes à mobilité réduite. Hein. Voilà.
Fatia. L'APF, c'est l'Association des paralysés de France, dont j'en fais partie aussi. Et moi, je suis au service à accueil de jour du foyer François Morel d'Évreux. Et effectivement, au service à accueil de jour, on a créé le conseil de vie sociale. Et c'est vrai que quand on a les réunions à l'Assemblée générale, ce qui revient énormément, c'est la location adulte handicapé, parce que 800 quelque chose d'euros, c'est pas grand chose. C'est plus que raide, ah ouais, Sylvain.
Mais c'est pas suffisant.
Bah
on
non.
Peut le dire. Hein.
Et ben oui, mais bon.
Bah je le dis pour vous, Fatia. C'est pas suffisant.
Non, c'est pas suffisant. Et beaucoup de mes collègues au service accueil de jour, qui organisent énormément de sorties là pour les beaux jours, peuvent pas les faire. Parce qu'ils trouvent que ça coûte cher et que ça dégrève beaucoup dans le budget. Et pourtant, le foyer Morel, comme l'APF, s'arrange pour qu'on ait le minimum à payer. Et malgré ça, ce n'est pas évident du tout.
C'est effectivement ce que soulignait Madame tout à l'heure, qui nous disait, finalement, en ayant si peu de revenus, on oblige à l'isolement. Je me permets, Christopher, c'est ça ?
Oui, il faut savoir que cette année, elle a été augmentée que seulement de 2,43 €, ce qui est égal à 2 baguettes de pain.
Il n'y a pas de quoi se plaindre alors, tout va bien. Christine.
Oui, effectivement, la question des revenus est très importante, mais je voulais aussi parler du problème de la scolarisation des enfants en situation de handicap, qui, à mon avis, est aussi la clé de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les années futures. Quoi de plus naturel qu'un enfant qui soit ordinaire ou, je dirais, extraordinaire, ne puisse pas avoir accès à l'école, au moins à l'école maternelle, et puis après à l'école primaire, au collège, et après voir ce qui l'amener au maximum de ses capacités, l'épanouir, le socialiser aussi. C'est très important pour lui, pour tous les enfants en situation de handicap.
C'est ce que j'ai... Alors pour les enfants ordinaires aussi, pour le coup, c'est vraiment...
Oui, c'est vivre c'est ensemble, voilà. Parce que c'est vraiment à l'école maternelle que les enfants apprennent à se connaître, à se reconnaître et à s'accepter. Et je pense que si effectivement des enfants ordinaires côtoient des enfants un peu différents, eh bien, ils verront moins les différences parce qu'ils les voient. Ils ne les perçoivent pas avec l'œil que peuvent porter les adultes sur les personnes en situation de handicap. Donc, il y a tout à construire en partant des plus petits. les plus petits.
Et moi, j'en rebondis ce que dit la dame, et c'est ce qui est très vrai. La différence, pour moi, est enrichissante. Je pense que plus qu'on se différencie, ça enrichit beaucoup les gens. Quoi. On apprend beaucoup à des gens, comme des gens nous apprennent que la différence est enrichissante. Quoi.
Et je dirais même plus, parce que j'ai été aussi enseignante en collège, et c'est un âge qui est vraiment très, très difficile, le passage préadolescence, adolescence, où le corps change, où on grandit, on grossit, pas dans le bon ordre, pas harmonieusement, on a des boutons, on a les cheveux gras. Donc si déjà tout petit, on a appris à vivre avec des personnes, des enfants un peu différents, avec des physiques ou des caractères aussi, pas faciles, eh bien, ma foi, peut-être que ce sera cette période-là qui est vraiment, vraiment difficile, hein, sera un peu moins difficile, il me semble. Non. Mais vraiment, là, je crois qu'il faut vraiment miser, si on veut vraiment arriver à une inclusion des personnes en situation de handicap, il faut commencer dès le plus jeune âge.
Puis j'ai la sensation, là pour le coup, pour avoir observé, alors je me permets d'intervenir comme tout le monde, hein, du coup je pose plus de questions. De toute façon, vous n'y répondez pas. Mais en tout cas, pour l'avoir vécu également, effectivement, c'est un vrai plus que des enfants, entre guillemets, ordinaires, se retrouvent avec des enfants particuliers. C'est vrai que c'est un vrai, vrai plus pour le développement des enfants et particulier et des enfants ordinaires. Chacun est gagnant. Il y a cette relation en mixant. Alors, j'ai cet exemple des enfants parce que finalement, c'est plus facile peut-être de jouer cette carte de l'inclusion à ce moment-là. Mais il y a cette notion de gagnant-gagnant. En fait, des deux côtés, tout le monde est gagnant et tout le monde apprend de l'autre et réciproquement. Oui.
Oui, Jean-Pierre.
Je vous en prie, Jean-Pierre.
Voilà. Je rejoins votre observation. C'est aussi un stade où, je dirais, les enfants ont un regard, je dirais pas pur, mais pratiquement, c'est-à-dire qu'ils sont sans tabou, d'une part, et je crois que voilà, il y a une liberté, je dirais, d'approche, même dans la différence. Et je crois que ça, il faut s'exprimer. Et à chaque fois, on est confronté à des systèmes ou à des principes, à une certaine négativité et qui fait qu'il faut laisser des espaces aussi où justement on peut librement être en relation avec l'autre tel qu'il est. Et ça, c'est important que ce soit à l'école. Mais on voit aussi quand les enfants à travers le sport, le loisir, d'autres dans la cour, parce que c'est aussi dans d'autres espaces, c'est là qu'il y a des choses qui se créent. C'est pas forcément dans les choses structurées que la relation se fait, c'est dans les espaces même non structurés. C'est-à-dire que ça donne libre cours à des choses, à des possibilités. Et je crois que ça, c'est important. Mais c'est exactement c'est pareil au stade de l'école. L'université, n'en parlons pas. Hein, c'est aussi très, très difficile aussi en termes d'intégration, en termes d'accès. J'irais même dans les possibilités d'évolution scolaire, diplôme, etc. Hein, c'est pas toujours évident pour adapter les process, hein. Et pareil dans l'intégration en entreprise, hein, dans le cadre du travail, du logement, parce que là aussi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses. La loi, elle partait d'un très grand principe, c'est de partir des besoins et des demandes de la personne et les prendre en compte, sauf que ben, voilà, les systèmes font qu'il y a toujours blocage, il y a toujours un obstacle, il y a toujours, je dirais, soit l'administration, soit l'argent, hein. C'est vrai que c'est quand même des obstacles. C'est le fait de rentrer dedans, hein, je vois, au niveau du logement, c'est quand même aussi une grosse problématique d'accès, parce que c'est aussi un élément de socialisation et de vie au quotidien, de pouvoir avoir un appartement, d'avoir son logement, de pouvoir faire ses courses. Voilà. Il y a encore un grand travail à faire. C'est avancé, hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué, mais je pense que c'est aussi l'affaire du collectif. C'est l'affaire de la collectivité entière, mais à tous les niveaux, quoi. Et ça, c'est important. Ouais.
Moi, je reviens à ce que vous dites, monsieur, tout en début de conversation. C'est vrai qu'un enfant a un regard innocent aussi, mais c'est un travail en amont aussi avec les parents aussi le soir, comment ils doivent aussi leur éduquer, leur donner des bases, quoi. Parce que certains parents, quand ils voient une personne ou un enfant qui s'approche d'une personne PMR, souvent le parent va leur prendre va leur prendre et va leur pousser pour l'éloigner de lui au lieu de laisser l'enfant innocemment de s'approcher d'une personne PMR, quoi. Et tout simplement, quoi. C'est un travail en amont avec les parents aussi et l'éducation, quoi.
Oui, Sylvain.
Voilà, moi j'ai du temps à donner, donc je fais du bénévolat aussi au niveau des aquariums comestibles. Et on fait, donc moi je peux faire, c'est du jardinage, hein, donc voilà, on fait ça dans les écoles, les rythmes scolaires. Et du coup, les enfants, comme on parle des enfants et tout, les enfants sont très très réceptifs. Et du coup, quand ils me voient en fauteuil, en plus c'est fauteuil électrique, donc ils ont beaucoup beaucoup de questions à poser, quoi. Naturellement, il touche beaucoup le fauteuil, quoi. Donc, à quoi ça sert à essayer ça? Donc, mais c'est agréable, hein. C'est vraiment. Alors, on leur apprend aussi sur l'handicap, tout ça. Donc, voilà. Et du coup, moi, je même en fauteuil roulant, je peux faire du jardinage, hein, avec les aquariums comestibles. On fait ça dans les bacs. On a créé poulailler aussi pour les enfants. On a tout adapté pour que je puisse y adapter, pour que je puisse le nettoyer, tout ça. Et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment agréable. Et pour les enfants, moi, ça me permet d'être avec les enfants et de pouvoir faire toutes ces activités tellement agréables. Voilà.
Alors, je vais reprendre la parole juste entre deux pour signaler que, comme il y a des émissions derrière sur notre antenne, il nous reste 3 minutes. On va essayer d'être du coup efficace sur les prises de parole. Annie, c'est à vous.
Moi, il me semble que le travail, en regard de la loi, c'est plus le milieu associatif qui a pris le relais. L'État, en réalité, fait des efforts en termes d'infrastructures. Mais il y a effectivement cette histoire de coûts, c'est-à-dire que pour faire partie de la vie culturelle de la ville, eh ben, ça demande de l'argent. Si on veut aller au cinéma, si on veut aller au théâtre, si on veut aller à la Maison des Arts, si on veut aller à tous ces trucs-là, et c'est peut-être là l'État manque d'aide pour que les gens, enfin le public dit empêché, puisse intégrer la vie culturelle de la ville.
J'ai la sensation, depuis ce dernier plateau, alors c'est ce qu'on appelle chez nous, mais la dernière demi-heure, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous emmener tous, autant que nous sommes autour des micros, sur comment ça se goupille au niveau. Alors, je vous avais évoqué la loi 2005. Bon, clairement, personne n'a souhaité rebondir dessus, ce qui n'est pas bien grave, mais j'avançais un petit peu comment institutionnellement on positionnait les choses, comment à travers les collectivités on pouvait agir. Et j'ai la sensation que vous me répondez à peu près tous que finalement, c'est à travers la mobilisation citoyenne, à travers le comportement individuel, à travers en tout cas la façon, le regard poser les uns sur les autres que les préoccupations se posent. J'ai la sensation que plusieurs fois j'ai relancé sur ces thématiques et souvent en retour j'ai ce regard de l'autre, ce comment on va inclure les gens dans notre société ordinaire et finalement au-delà et presque sans finalement qu'on s'imagine comment l'institution va faire ou comment la collectivité va procéder.
Souvent, on nous colle une étiquette, tout simplement, quoi. Et tout le monde se voit aux médias, tout ça, ils nous collent une étiquette dessus. On est formaté à avoir une étiquette handicapée, on est dans le clan handicapé, et les gens ne veulent pas nous rentrer dedans, quoi. Ou ça différencie, quoi.
Voilà, en tout cas, c'est la sensation que j'avais un petit peu sur...
Peu court, mais par rapport à l'institution, oui, nous sommes vraiment très en colère parce que nous avons été interpellés par plusieurs mamans qui sont au désespoir pour leur enfant autiste qui va être envoyé, faute de place, directement en collège. Hein, donc, ils vont véritablement à la catastrophe. Et bon, ce qui va vouloir dire qu'ils vont être déscolarisés et les mamans vont devoir rester à la maison pour regarder leur enfant. Donc, plus de socialisation ni pour l'enfant ni pour les mamans.
Très bien. On va essayer de faire très court les dernières prises de parole. Je vous écoute.
Oui, tout à fait. Je suis Denis. Je suis porteur de handicap, même si ça ne se voit pas. Et je suis président de France Bénévolat Heure. C'est une association qui, au niveau du département, met en relation toute personne pouvant donner de leur temps, donc même les personnes handicapées, toute personne et des associations qui cherchent du handicap. Donc, en allant sur le site web de France Bénévolat, www.francebénévolat.org, vous pouvez, chacun peut s'inscrire comme bénévole et de cette façon, il peut trouver des annonces d'associations comme l'APF, qui fait partie de France Bénévolat, de trouver des missions qui puissent lui permettre d'avoir du lien, de pouvoir du lien social, qui permet de développer sa personnalité et de se sortir aussi de l'isolement dans lequel il se trouve.
De toute façon, a priori, c'est à travers l'interactivité des humains, et là, on ne parle plus de statut de valide ou non valide, que viendra, et en tout cas, que reviendra la juste place des uns et des autres. Voilà. C'est un peu pourri comme conclusion, mais rassurez-vous, j'en ai une bien meilleure que Fatia m'a donnée durant l'émission, et c'est même pas que c'est elle qui a fait la conclusion de cette émission, mais elle arrivera. Annie, vous vouliez prendre la parole dans une très courte ? Non, et bien c'est parfait, ça m'arrange. On vous la laissait s'il fallait, mais en tout cas, ça va nous permettre de goupiller plutôt pas mal. Nous étions en direct, en live et en public de l'Abordage Club. Ah, ça me fait toujours plaisir de le dire. Aujourd'hui, la thématique, c'était quelle place pour le handicap dans notre vie, dans notre société. Je vais la faire parce qu'elle ne sait même pas de quoi je parle. Je suis sur Fatia comme conclusion. Non, mais elle a déjà dit la conclusion, mais elle ne le sait pas, Fatia. Merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir bien participé, d'avoir beaucoup participé, d'avoir été intéressante, bien avoir voulu témoigner, d'avoir apporté énormément d'éléments dans cette émission. Bien entendu, rien que sur cette thématique, nous aurions pu faire 6, 7, 8 émissions. En tout cas, nous aurions pu en faire un paquet. On en fera d'autres, ça c'est certain, parce que sur ces questions de handicap, eh bien, Principe Actif se déplace régulièrement. Pas plus tard que jeudi prochain, on sera le 13 juin, nous serons en direct du Home Nicolas qui organise un grand colloque autour de l'autisme en particulier, mais nous y serons. C'est mardi, merci de préciser. Voilà, je fais toute tête et c'est pas une bonne idée. Nous étions en direct, je le disais, de l'Abordage Club. Merci à Max d'avoir été un complice au top pour la réalisation de cette émission. C'est lui qui a invité tous les gens qui sont dans la salle. C'est lui qui m'a envoyé de la doc pour préparer tout ça. C'est lui qui chapeaute ce projet. Merci Max. Au contrôle, à la radiopropulsion de cette émission, nous avions l'ami Pignon. Merci à vous. Nous avions l'inimitable Aurélie, merci à toi également. Vous retrouvez tout de suite sur notre antenne l'émission Pick Up. Et comme j'ai pas mes notes, je sais plus de quoi ils parlaient aujourd'hui, mais c'est pas grave, ils vont vous le dire dans exactement 3 secondes. Merci à vous Pick Up de nous avoir laissé manger la petite minute qui allait bien.
Les émissions des quartiers.
Et je vous avais, oui, 2 secondes. Mais je vous avais prévenu que la conclusion, c'était Fatia qui nous l'avait donnée durant l'émission. J'ai retenu une phrase. Merci Fatia pour l'avoir prononcée. On est différents comme tout le monde.